Et bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur l'antenne d'Odo Radio. Voilà, juste avant de vous annoncer le sommaire, bien sûr, Nicolas, on fait un petit coucou eh bien, à la ville de Bassens qui nous accueille une journée durant hier. On a passé de bons moments, on repartagera hein, bien sûr toutes les infos, voilà, les diverses photos notamment. Mais voilà, un petit clin d'œil hein, pour le bon moment qu'on a pu passer et vivre hier. Allez, je reviens sur l'actualité. Ce journal en ce jeudi 27 août. Juste avant d'annoncer d'ailleurs le sommaire, on rappellera hein, des prérogatives importantes à rappeler. Comment nous suivre? La bande FM 91.3 dans quasiment tout département de la Gironde. Vous pouvez nous suivre également via notre site odoradio.fr. Et chaque fois, je le reprécise, hein, parce que je sais que vous êtes nombreux et nombreux à le faire, de pouvoir venir autant de voir télécharger toutes nos émissions. C'est toujours sympa et de revenir. Et je vais en refaire un petit clin d'œil tout à l'heure en présentant la pause musicale. Et vous pouvez nous suivre également par le fameux DAB ou DAB+. Je vous laisse vraiment le soin de prononcer cet acronyme anglais qui puisez comme vous voulez. C'est la radio numérique terrestre. Et si vous êtes en métropole bordelaise équipé du poste récepteur adéquat, c'est la troisième manière, troisième moyen pour nous suivre. Allez, tout de suite le sommaire de ce journal en ce jeudi 27 août. C'est Nicolas qui va nous décliner quelques brèves d'infos d'ici quelques instants. Ravi de retrouver Michel Favré, 137e chronique Astro. On est ravi également de retrouver Corinne, présidente d'AG33. Donc on va voir la chronique présentée par Michel. Et puis voilà, je pense qu'il va y avoir de l'émotion là, parce que là j'ai entendu un petit peu les différents échanges voilà, concernant eh bien, l'éclipse du 12 août. On se gardera quand même juste quelques minutes avant la fin sur la tranche méridienne, donc 13h, car voilà, on écoutera sa vie. Il était dans nos locaux mardi, voilà, pour une belle session live, et là on écoutera un extrait d'un titre qu'il nous a interprété en direct. Et quand tout à l'heure je parlais de pouvoir venir et entendre voir télécharger, eh bien ça n'est un bon exemple hein. Ça permet de revivre comme cela, et puis on soutient les artistes avec les moyens du bord bien sûr. Et il me faudra juste une ou deux minutes également pour rappeler qu'il y a de beaux événements sur la rue droite, mais pas que bien sûr, hein, faut pas être chauvin, mais suite bien sûr aux incendies qui ont ravagé pas que la Gironde malheureusement, hein, parce que d'autres pays européens ont été touchés, le Var, etc. Et là il y a de belles initiatives qui s'organisent ça et là, par exemple ce soir à l'Arca Arena où de nombreux artistes, et voilà, ça répète, il va y avoir des buffs, etc. Ça affiché complet en 10 minutes. Et il y a d'autres événements, là j'ai vu par exemple Polyphonia, Eliane Lavaille, une association locale qui va organiser un concert le 16 septembre. Là, on sera plus dans le classique. Et là, pour ces prochains jours, eh bien, il y aura Ison, j'en redirai quelques mots. C'est pour ça que je me réserverai juste un petit temps sur ça. Voilà pour un événement. Si vous êtes fan de Jean-Jacques Goldman, Jean-Jacques ne sera pas là, mais ce sont ces musiciens qui seront là pour un bel hommage à Jean-Jacques Goldman. Et on soutient voilà, la ville du Porge parmi les villes les plus touchées. Et je sais qu'il y a également un concert le 30 août, dimanche. Voilà, ce sera à Lacano, ce sera en accès libre, donc après donne qui veut, donne qui peut. Il y aura tout un plateau d'artistes dont Philippe Etchebest, et oui c'est un nom bien connu. Et puis si on suit un petit peu l'actu, voilà, c'est un batteur voilà qui joue bien aussi hein, voilà, même si on ne le connaît pas forcément sous cet angle là allez, je vais pas trop perdre de temps sur cette partie sommaire pour justement avoir le temps d'en détailler un petit peu plus tout à l'heure. Et là tout de suite donc c'est Nicolas qui vient nous présenter quelques brèves infos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Joël et bonjour à toutes et tous. Avancée du projet de passerelle cyclable et piétonne du pont François Mitterrand, Bordeaux Métropole et l'État poursuivent les travaux de construction d'une nouvelle passerelle dédiée aux mobilités douces au-dessus de la Garonne. Longue de 700 mètres et large de 3 mètres, cet équipement sera suspendu en encorbellement sous le pont François Mitterrand. Il constituera un maillon clé de l'itinéraire 14 du réseau Vélo Express pour relier les pistes cyclables entre Bègle et Bouliac. Le chantier, d'un coût de 11,8 millions d'euros, cofinancé par l'État et la métropole, doit s'achever à l'automne 2026. Prêt gratuit de vélos électriques à Artigues près Bordeaux, la municipalité met à disposition des habitants une flotte de 5 vélos assistance électrique. Ce prêt gratuit s'étalera du 6 septembre au 29 octobre 2026. La mesure vise à tester les déplacements domicile-travail en vélo. Les personnes intéressées doivent constituer leur dossier de demande avant demain, vendredi 28 août, sur le site internet de la ville www.artigues-près-bordeaux.fr. Fin des travaux d'été sur le pont de pierre à Bordeaux, le chantier estival du pont de pierre s'achèvera demain vendredi 28 août. Engagé depuis le 23 juin, ces travaux de grande ampleur avaient entraîné l'interruption totale de la circulation des trams sur l'ouvrage, ainsi que des déviations pour les bus et des restrictions pour les piétons et les cyclistes. Le trafic reprendra normalement demain sur les lignes du tramway A et E interrompues sur le pont de pierre et sur l'ensemble du secteur. Et pour finir, la municipalité de Florac lance une campagne de recrutement pour renouveler les membres de son Conseil des Sages. Cette instance consultative de démocratie participative regroupe des résidents de plus de 60 ans, retraités et disposant de temps libre pour participer à la vie communale. Les membres émettent des avis et mettent leurs compétences au service des projets de la ville. Les personnes intéressées doivent adresser leur candidature par courriel à Monsieur le maire via l'adresse jeparticipe@florac.fr.
Allez, merci beaucoup Nicolas pour ces quelques brèves d'infos. Allez, on retrouve d'ici quelques instants Michel et Corinne. Le temps de se mettre un petit peu dans l'ambiance.
La terre, elle brille en fait, elle est d'un bleu brillant, elle luit.
Houston, we have a problem.
It's one small step for man. One giant leap for mankind.
L'histoire de l'espace.
Puis la Terre, c'est immense, on est vraiment tout petit.
En visitant des planètes, nous sommes de nouveau Christophe Colomb, qui découvrons des terres nouvelles, qui jusqu'à présent n'étaient que des petits points de lumière dans le ciel, d'une part. Et d'autre part, nous plaçons des engins qui reçoivent les lumières X, gamma, infrarouge, ultraviolet, de toutes les longueurs d'onde. Et ces lumières de toutes les longueurs d'onde nous apportent toute l'information des astres, information que jusqu'à présent n'avions pas.
Creating a self-sustaining civilization on Mars. It would be the greatest adventure ever.
Voilà, belle entrée en matière. Merci Nicolas. La régie technique. Allez, avant que vous lanciez dans votre chronique, Michel, je vous souhaite d'abord la bienvenue.
Bonjour Joël.
Voilà, bonjour. Je vous oublie pas Corinne. Bonjour Corinne.
Bonjour Joël. Bonjour Michel.
Voilà, présidente AG33, astronomie, Gironde 33. Alors vous allez pouvoir intervenir en seconde partie. Michel, tout de suite, il va être chronique astro 137e. Hein. Ça fait du beau monde hein, sur constellationsetgalaxies.org. Alors justement, vous allez ouvrir cette chronique par l'actu en commençant par rectifier une erreur, Michel.
Oui, effectivement, en relatant le 13e essai du Starship de SpaceX le vendredi 24 juillet, deuxième de la version V3, j'avais dit qu'après son amérissage en douceur à la surface de l'océan Indien, nous avions pu voir, je cite, cet épas vide flottant quelques minutes avant de sombrer. C'est du moins ce que j'avais cru en voyant les images des caméras embarquées qui se terminaient sous la surface de l'eau. Mais en réalité, le vaisseau a continué à flotter. Et après avoir laissé l'engin à son sort quelques jours, SpaceX a annoncé le 18 août l'avoir remorqué jusqu'à l'île de Christmas Island en Australie pour pouvoir l'étudier de près et notamment les dommages produits sur la protection thermique par la rentrée atmosphérique, un complément inattendu aux données transmises par la télémétrie lors du vol. En matière de fin insolite d'engin spatial, ces dernières semaines nous ont donné un autre exemple avec un étage de fusée Falcon 9 qui s'est écrasé sur la Lune le 5 août. Ce lanceur, dont je rappelle que le premier étage est récupérable, avait été tiré le 15 janvier 2025 et son deuxième étage avait amené en orbite lunaire 4 jours plus tard l'alunisseur Blue Ghost de la société américaine Firefly Aerospace ainsi que l'atterrisseur lunaire japonais Akuro Air de 1 tonne qui s'est écrasé sur la Lune le 5 juin suivant, sans doute en raison d'une défaillance de son altimètre. Pour le Blue Ghost de presque 3 tonnes, cette première mission s'inscrivait dans le programme CLPS, Commercial Lunar Payload Services de la NASA, c'est-à-dire le transport par des sociétés privées sur la Lune de dispositifs de mesure et d'exploration pour mieux connaître l'environnement en préparation des futures missions humaines Artemis. Il s'est posé en douceur sur un site de la mer des Crises le 2 mars 2025 et a pu assurer sa mission scientifique pendant 14 jours, soit la durée d'une journée lunaire nécessaire pour alimenter ses panneaux solaires. Une fois sa mission accomplie, le deuxième étage du Falcon 9 ne disposait plus d'une énergie suffisante pour être dirigé loin de la Terre. Il avait donc été placé sur une orbite elliptique lointaine de 26 jours, donc assez semblable à celle de la Lune, mais il s'est avéré qu'elle était instable, et alors que ce n'avait pas été prévu au départ, sa trajectoire l'amenait finalement à percuter la Lune. Ce choc était attendu par les scientifiques, car il permettait d'observer le déroulement d'un impact sur la Lune dont tous les paramètres étaient connus, la masse, la vitesse et l'angle. Malheureusement, il était prévu très proche de la limite de la face visible, près du cratère Einstein, de 181 km. Malgré sa masse d'environ 4 tonnes, on ne s'attendait pas à pouvoir observer le flash de lumière provoqué par le choc, contrairement à celui d'un astéroïde de masse équivalente, car se produisant à une vitesse bien moindre, de 8700 km/h quand même, contre souvent 4 à 5 fois plus pour un objet naturel circulant dans le système solaire, qui est aussi beaucoup plus compact qu'un étage de fusée, constitué surtout d'un réservoir vide. La NASA a diffusé le 18 août des photos du nouveau cratère prises par sa sonde LRO, Lunar Reconnaissance Orbiter, qui prend depuis 2009 des images de la surface lunaire à faible distance, environ 50 km. Le cratère a un diamètre de 18 mètres pour une profondeur de 3 mètres et on peut facilement trouver sur Internet ces images, y compris une comparaison avant-après de la même zone, par exemple sur le site de Ciel et Espace.
Alors pour en revenir au Starship, un nouvel essai est-il prévu prochainement ?
Après le succès du 13e essai, on s'attendait à ce que le 14e arrive assez vite, entre 1 et 2 mois après, mais il n'est pas encore programmé dans le planning des lancements sur le site de SpaceX. Cependant, les aficionados voyaient des signes plutôt encourageants, avec les essais au sol ces derniers jours du Starship prévu pour le 14e test, ainsi que le transfert du booster Super Heavy, c'est-à-dire le premier étage, vers le pas de tir, laissant espérer un lancement peut-être en septembre. Mais Elon Musk a plutôt refroidi leur enthousiasme par ses récents tweets sur la plateforme X, en annonçant le 20 août que la récupération en douceur du vaisseau par la tour de lancement, ce qui veut dire aussi la réalisation d'une orbite terrestre complète, ne sera probablement tentée que dans quelques mois. Il est vrai que c'est une opération à haut risque, car le vaisseau pesant encore dans les 125 tonnes à vide pourrait très gravement endommager le pas de tir en cas d'accident. Donc soit le 14e tir ne viendra pas aussitôt que prévu, soit le vol orbital et la récupération ont été repoussés à un essai ultérieur. Le mois de septembre pourra nous en dire sans doute plus. Pour être complet, je dois ajouter que Musk a aussi commis ces derniers jours quelques tweets mégalomanes dont il a le secret, peut-être d'ailleurs pour faire un peu oublier le retard du Starship, en annonçant l'intention de construire une deuxième Starbase, donc le lancement de ses fusées, en Louisiane, beaucoup plus grande que l'actuelle au Texas, avec une douzaine de tours de lancement, hein, je cite, ayant pour objectif de pouvoir lancer jusqu'à 30 Starships par jour. Un projet de 100 milliards de dollars qui produira sans doute une levée de bouclier des protecteurs de l'environnement pour en préserver les 15 000 hectares de son emprise, quand on voit quelle liberté SpaceX a pris avec l'environnement de celle de Boca Chica, pourtant implantée dans une zone naturelle protégée. Sans doute que le turbulent dirigeant de SpaceX vise avec cette annonce à répondre aux souhaits exprimés la semaine dernière par son compère Donald Trump dans une note aux services fédéraux, demandant de permettre au moins 1000 lancements et rentrées atmosphériques par an d'ici 2030. Face à ce genre d'annonce tonitruante habituelle de Sgugus, je conseille à nos auditeurs de garder la tête froide et procéder tout simplement à un petit calcul. 1000 lancements par an, ça fait bien dans les 30 par jour, comme annoncé par Musk, sauf qu'en 2025, les USA n'en ont réalisé que 178. Il est vrai, la plupart par SpaceX avec ses bordées de satellites Starlink expédiés à raison d'environ 3 tirs de Falcon 9 par semaine. Pour arriver à 30 par jour, il faudrait juste faire 70 fois plus. Et d'ici 3 ans, bien sûr. Et pendant ce temps-là, la Chine continue de progresser régulièrement. Comme je le répète souvent ici, il est bien possible que ce soit un taïkonaute chinois qui marque le retour de l'humanité sur la Lune en 2030, voire 2029. J'avais annoncé la dernière fois que le 10 juillet, l'agence spatiale chinoise avait réussi une démonstration impressionnante en récupérant en douceur le premier étage d'une fusée Long March 10B, celle qui doit emporter des taïkonautes jusqu'à la Lune. Eh bien, les sociétés privées chinoises ne sont pas en reste, puisque la start-up Landscape a réussi le 12 août à récupérer le premier étage de sa fusée Zhuge-3 après avoir placé en orbite un satellite chinois. Il s'est posé en douceur sur des pas très tractables après une redescente contrôlée de manière analogue au premier étage des Falcon 9. Cette société devient donc la troisième à maîtriser cette technique de lanceur partiellement réutilisable après SpaceX et Blue Origin.
Alors toujours dans le cadre de votre chronique, l'actualité, Michel, la mission de sauvetage de la NASA qui est ratée.
Oui, la dernière fois, j'avais parlé aussi du lancement le 3 juillet du petit satellite Link de 425 kg, conçu par la jeune société Catalyst à la demande de la NASA pour aller à la rencontre de SWIFT, un télescope spatial de 1,5 tonne opérant dans le domaine des rayons X, afin de prolonger sa mission, car celui-ci menaçait d'être détruit lors d'une rentrée atmosphérique, son orbite ayant progressivement baissé de 600 km à 370 depuis son lancement en 2004. Link est une sorte de remorqueur spatial, car une fois rejoint sa cible sur son orbite actuelle, il devait tenter de l'agripper avec ses trois bras robotiques, puis allumer ses trois moteurs à plasma pour le hisser lentement jusqu'à 600 km. Malheureusement, cette mission de sauvetage est un échec, car quelques jours après notre chronique, fin juillet, les opérateurs ont perdu le contact du petit satellite qui s'est mis à tournoyer de manière incontrôlée suite au dysfonctionnement de deux de ses trois volants d'inertie pour l'orienter, rendant les communications avec le sol très aléatoires. On conservait cependant un petit espoir de rétablir la situation en utilisant la propulsion plasma pour faire cesser la rotation afin de poursuivre la mission. Mais la semaine dernière, le 19 août, la NASA a annoncé qu'elle renonçait à rattraper SWIFT pour le propulser plus haut. L'administrateur de l'agence américaine, Jared Isaacman, a cependant déclaré que cette mission à 26 millions de dollars méritait d'être tentée et il compte en tirer le maximum d'enseignements pour de futures missions analogues. Je rappelle à nos auditeurs que le télescope spatial Hubble pose lui aussi ce problème de perte progressive d'altitude.
Actualité toujours, un petit mot, Michel, sur Sophie Adenau.
Alors on ne pouvait pas terminer cette séquence d'actualité spatiale sans évoquer notre spationaute nationale, d'autant qu'elle a beaucoup fait parler d'elle dans les médias ces derniers jours, avec ses deux sorties extravéhiculaires. Comme je l'ai déjà expliqué ici, ces opérations en combinaison hors de l'ISS sont pour des tas de raisons très risquées et fatigantes. Donc je rappelle à nos auditeurs qui n'en auraient pas déjà entendu parler que notre SOF, comme l'appelle son collègue américain Anil Mellon qui l'a accompagné lors de ses sorties, a tout d'abord réalisé une première plongée dans le vide spatial pendant plus de 6 heures le 18 août, avec pour mission principale de remplacer une antenne de communication de l'ISS avec la Terre. Malheureusement, cette opération n'avait pas pu être achevée, notamment en raison d'une vis récalcitrante. Elle a donc remis ça le 25 août, il y a deux jours, encore pour une durée de 6h30, et les deux astronautes ont réussi cette fois cette intervention délicate. On voit à cet exemple que dans l'espace, de tout petits problèmes qui seraient anodins sur Terre, il suffisait d'un coup de dégrippant pour bloquer une vis, sont beaucoup plus difficiles à résoudre dans l'espace. Et aussi, la débrouille et l'improvisation restent des qualités essentielles des astronautes qui doivent être de véritables bricoleurs de l'espace, car on a appris qu'ils avaient utilisé une brosse à dents pour appliquer un peu d'huile sur des boulons et un marteau en caoutchouc pour insérer un connecteur qui leur résistait. On a appris hier que la Française doit effectuer une nouvelle sortie dans l'espace mardi prochain pour une durée de 6h30 encore, afin d'effectuer des opérations de maintenance à l'extérieur de l'ISS, et elle sera cette fois accompagnée de sa collègue Jessica Meyer pour une mission donc 100% féminine. Pour notre spationaute, c'est un record, car elle est la première Française à effectuer des sorties extravéhiculaires, mais elle reste encore loin du record détenu par l'Américaine Peggy Whitson, avec plus de 60 heures passées dans l'espace en 10 sorties.
Allez, vous êtes toujours à l'écoute des programmes d'Odo Radio. C'est notre journal en ce jeudi 27 août et avec Michel Favré pour sa 137e, j'en bafouille, regardez, 137e chronique astro. Et là, Michel, vous allez aborder la seconde partie de votre chronique, l'éclipse du 12 août et les suivantes.
Voilà. Étant donné le caractère très exceptionnel de cet événement spectaculaire qui n'a pas eu d'équivalent depuis l'éclipse du 11 août 1999, total sur une partie de la France, et qui n'en aura pas pour les 50 prochaines années, en France comme en Europe, excepté l'extrême sud de l'Espagne l'an prochain, j'ai pensé que ça valait la peine de s'y attarder un peu, et notamment avec Corinne, qui s'est proposée le mois dernier pour venir témoigner de son expérience de l'éclipse totale en Espagne, que j'ai partagée, mais depuis un autre site.
Voilà, donc Corinne, vous êtes notre grand témoin. Alors, je sais que vous en avez un petit peu discuté tout à l'heure. Là, je ne vais pas forcément poser des questions, mais rappelez-nous, vous en avez parlé, comment vous avez préparé ce rendez-vous, parce que c'était préparé bien en amont, et puis un petit peu nous raconter, et puis après, voilà, la séquence émotionnelle forte. Donc, en amont, comment vous avez préparé cette journée Vous n'étiez pas en France, on va le rappeler.
Non, alors, en fait, il y a 4 ans, déjà, j'avais oui dire de cette éclipse qui se passera en Espagne, pas très loin en fait hein, de la Gironde. Donc j'avais bien l'idée d'y aller, mais comme je fais toujours, moi j'ai envie de partager, j'aime pas faire les choses toutes seules, surtout les choses qui me plaisent. Donc effectivement, j'ai proposé aux membres de mon club, de mon association, donc de faire l'expédition ensemble. Et apparemment, tout le monde était plutôt pour cette expédition. Et les 40 membres du club ont levé la main, comme quoi ils étaient bien partants. Donc il y a 3 ans, on est parti en Espagne pour une journée, 5h du matin jusqu'à 22h le soir, pour trouver un camping et un site pouvant nous accueillir tous. Et en fait, durant ces 3 ans, ça a été le partage d'abord de ces informations, hein, parce que c'était la première fois que j'allais voir une éclipse de soleil. Je savais qu'il pouvait y avoir des problèmes météo, des problèmes de circulation, bon, enfin, peu importe, plein de problèmes. Et j'avais partagé sur des forats astronomie. Et on m'avait dit d'abord, oh là là, le camping va jamais garder la réservation. Mais il fait pas beau en montagne, il y a beaucoup d'orages. Bon, enfin, bref, ils m'ont fait monter la sauce. Moi, pendant 3 ans, donc, j'ai attendu finalement dans les derniers mois, là, en 2026. Certains commençaient à dire que le site était pas si mal, parce que un peu isolé des grandes villes, hein, on était à Abérar, en Espagne, un peu isolé des...
C'est vous pouvez situer un petit peu Corinne pour les non-initiés.
C'est entre Soria et Burgos, vraiment dans le centre de l'Espagne.
Hein, très bien.
Et on était en montagne, donc une basse montagne, mais montagne quand même. Et on avait choisi un site qui s'appelait la Torre de Abérar, où il y avait une ruine d'une ancienne tour de guet, hein, et à côté, un château d'eau. On nous avait bien spécifié à l'époque que le site était en public, donc pas de souci ce côté-là. Donc, on est arrivés tous en Espagne, il faisait beau, tant mieux, et la veille, on est montés sur le site pour justement regarder où était le soleil à
8h30. Le repérage en
exactement.
Même temps aussi. Puis...
Alors, c'était bon, hein, bon. comme il y a 3 ans, sur Stellarium, ça semblait bien correspondre. Et du coup, on a dit, bon ben voilà, demain matin, il n'y a plus qu'à monter. Donc bien sûr, une nuit très agitée, avec peu de sommeil, hein, forcément, très énervée. On s'est levé à 6h30 pour à 8h être sur le site. Comme ça, on était sûr d'avoir notre place. On avait monté la petite tonnelle pour l'ombre, on avait mis les trépieds photos, et petit à petit, au cours de la matinée, tout le monde nous a rejoints, plus ou moins des personnes qu'on ne connaissait pas, des personnes qu'on connaissait, des membres du club. Et au final, ça s'est rempli. Hein. Il y avait une bonne quinzaine de voitures. Qu'à un moment, qu'est-ce qu'on voit débarquer ? La Guardia Civile.
Aïe.
Et là...
On dirait un feuilleton. Hein.
C'est ça.
Alors,
et là, un des policiers arrive vers nous et nous dit « 5 minutes, vous dégagez. Oh, » c'est pas possible. Alors, on essaye de parlementer, mais pourtant... Il nous explique. Alors, bien sûr, je vous passe outre la barrière de la langue. Il nous explique que c'est un lieu privé et qu'il nous montre un gars qui était en train de brailler dans tous les sens. En fait, faut dire que sur ce site, il y a ce qu'on appelle des baraques à chiens. C'est des chasseurs qui ont construit ces baraques sur ce site et qui ont des chiens dedans, hein, des chiens qui s'occupent hein, régulièrement. Et le problème, c'est ce qui était très sensible cette année, comme ça a été sensible en Gironde, les incendies. Ils n'ont fait qu'une peur, c'est que toutes ces voitures génèrent un départ de feu. Et donc, bien sûr, brûlent leur cabane. Alors que, par la suite, je savais que c'était bien un lieu public qui était donc mis à disposition de la mairie. Plus tard, on saura que la mairie a donné son autorisation pour des astronomes amateurs, hein, ou qui veut venir voir l'éclipse sur ce site, mais sans voiture. Voilà. Le tout, c'était de ne pas venir en voiture. Bref, là-dessus, il y avait engueulade avec un des gars qui avait porté plainte, des policiers, ça partait un peu dans tous les sens. Nous, on a plié et on a dit, mais on va aller où ? Et il y a le policier, gentiment, il nous a dit, regardez là-haut, il y a des camping-cars, vous pouvez aller là-bas. Bon, on prend nos affaires, la voiture, on s'en va, on monte.
On est dans les délais d'ailleurs à ce moment-là encore.
Ah oui,
Corée,
il est midi.
Bon.
Il est midi.
Bon, d'accord.
Donc ça va, on a encore quelques
minutes. Parce qu'on voit que c'est épique, mais...
Mais en plus, moi, j'angoissais au fait qu'il risquait d'y avoir déjà toutes les places de prise.
Mais bien sûr.
Donc on monte et en fait, on prenait l'altitude finalement. Hein, on se retrouvait à 1300 mètres au lieu des 600 mètres à la base. Et là, les camping-cars, en fait, étaient d'un côté, il y avait une route, hein, une petite route, d'un côté du circuit, c'était une crête placée de telle façon que tous ceux qui étaient sur la crête ne pouvaient pas être gênés par les autres personnes placées derrière. Ce qui fait que tout le monde pouvait y trouver une place, et de l'autre côté de la route, ben, personne n'avait encore mis quoi que ce soit. Bon, on y va à la voiture, et on se dit, on va se faire éjecter encore une fois. Mais c'est pas grave, on met les trépieds, les fauteuils, et puis là on se dit... On verra bien. Et puis là, la police qui revient, mais c'était une police différente. La police des forêts, qui était arrivée avec un camion de pompiers. On va dire, on va tous se faire éjecter. Heureusement, les paroles se délient. Et un des membres des camping-cars nous avait dit que la veille, ils étaient déjà là, ils avaient dû partir parce que le camping sauvage est interdit en Espagne. Alors déjà, en temps normal. Alors là, en temps d'éclipse, ils ont bien veillé à ça. Ils ont dit, vous revenez ici à midi. Ce qui fait que le site était donc validé par la police. Et en fait, cette police des forêts était juste là pour être sûre qu'on ne faisait pas n'importe quoi, qu'on ne faisait pas de barbecue en attendant l'éclipse, justement. Et voilà, donc on a passé l'après-midi, les copains nous ont rejoints, tout le monde a posé son trépied, il y avait de la place pour tout le monde. Et du coup, je suis allée faire une petite sieste, j'étais épuisée, je suis allée faire une petite sieste dans la voiture. Alors c'était agréable parce qu'il y avait un peu d'air aussi, mais il faisait chaud, hein, il faisait très chaud. Et au réveil de la sieste, en fait, une petite heure, il y avait un monde, déjà beaucoup de monde s'était posé, beaucoup de curieux, hein, très peu de photographes. Et au final, voilà que l'éclipse démarre. Quand démarre ? On était là, on était à 7h30, hein, on était prêts à voir le début, c'était 35 si je me souviens bien. Tout le monde était prêt, tout le monde était sur les starting blocks. J'avais déjà envoyé mon intervallomètre sur l'appareil photo, parce que comme ça, je n'avais plus besoin de m'en occuper. Et hop, premier contact. C'est là où la lune, en fait, commence à grignoter le soleil. Tout le monde applaudit. Et là, bah, du coup, je me suis mise à pleurer parce que, enfin, j'allais voir une éclipse de soleil totale. Et ça, c'était vraiment la première fois de ma vie. Tout le stress, en fait, de cette météo, là, il n'y avait pas d'orage qui arrivait.
Et tous les incidents que vous avez nommés aussi avec la police.
Voilà, donc, tout ça,
c'est... Ça a dû ajouter.
Voilà, et en fait... Je me suis tournée vers Denis, je lui ai dit « Ça y est, je suis sûre que je vais voir une éclipse totale de soleil. » Du coup, ben voilà, il s'est passé presque une heure à attendre que le soleil petit à petit grignote. Bon, on voyait les différentes phases, on discutait avec les copains, les photos, machin. Et finalement, juste avant la totalité, il restait qu'un fin croissant de soleil. Il faisait encore jour, la lumière avait baissé déjà. Et là, les lumières de la ville, en bas du village, venaient de s'allumer. Et donc, j'ai mis de suite mon téléphone en position vidéo et j'ai dit, on verra bien ce que ça va donner. Je savais que j'avais plus beaucoup de batterie. D'ailleurs, la fin des vidéos le montre, hein, ça se coupe un peu rapidement. Et là, effectivement, pouf, la lune, enfin, couvre totalement le soleil. Et c'est là, les gens se mettent à crier. Du coup, je me mets à crier avec eux, je ne sais pas pourquoi.
Je suis censée
garder mon calme, mais je me mets à crier.
Bon.
Et d'un coup, toute la pression de ces 4 ans me remonte et je me mets à pleurer. À pleurer, mais tellement le spectacle était beau. On ne peut pas se rendre compte, même sur photo, même en disant « Ouais, je sais ce que c'est une éclipse, j'ai vu des photos, j'ai vu des dessins. » Non, on ne peut pas se rendre compte. Alors, je ne sais pas si en plus le fait que le soleil soit si bas la rendait encore plus belle... Parce qu'on a cet effet d'optique qui rend les astres qui se couchent ou qui se lèvent beaucoup plus gros. Et du coup, l'émotion est passée assez vite pour que je puisse profiter de tous mes sens. Effectivement, il faisait nuit, les gens pleuraient, parlaient, riaient.
Et la température baisse.
Oui, oui, oui. Alors bon, là, je te dirais que je n'ai pas eu le temps d'avoir froid. Mais bon, alors toute cette totalité, j'entendais Denis qui râlait parce que sa caméra qui voulait plus faire la mise au point, on voyait Vénus, on avait même vu Jupiter, hein, très très rapidement, hein, de cette hauteur en fait. J'en étais presque à remercier la guardia civile de nous avoir éjectés du bas. Et finalement, le soleil est revenu beaucoup trop vite. Et les gens ont à nouveau applaudi, ils étaient contents, et puis voilà quoi. Alors, on avait encore toute une heure à attendre au moins le coucher du soleil. On savait qu'on ne verrait pas la lune complètement dégagée du soleil, mais on avait ce coucher de soleil à attendre. Et pourtant, la moitié de tout le public présent a fait ses valises. En fait, ils sont partis, ils sont rentrés chez eux. Pour eux, ils n'étaient venus que pour la totalité. La plupart des curieux sont comme ça. Et ils restaient donc sur le site que ceux qui imageaient ou qui voulaient voir ça jusqu'au bout. Voilà, donc j'ai pu communiquer pendant l'événement avec Michel, qui était lui près de la côte. J'ai pu communiquer avec le copain qui était resté à la torée de Abérard et qui s'était fait rejoindre par des locaux, hein, ce qu'on appelle des locaux. Des copains avaient pris un autre site de peur qu'il y ait trop de monde, et on s'était un peu séparés. Et finalement, tout ça a fait que le soir, on s'est couché très tard, alors que le lendemain, on devait prendre la route.
C'était un moment tellement rare, en même temps, il faut profiter au mieux.
Il faut dire que 80% des membres du club n'avaient jamais vu d'éclipse, et tout le monde commençait à me remercier, mais je dis « mais je n'y suis pour rien ».
Ah, c'est pas vous qui avez organisé l'éclipse?
Oui et non, vous avez provoqué pas organisé. J'ai provoqué le déplacement, mais je n'ai absolument pas.
C'est déjà beaucoup, hein.
Franchement,
oui, bien sûr.
Cette météo, ce site, tout était. Je ne reviens pas d'avoir eu autant de chance. Voilà.
Bon. Je ne sais pas si vous voulez compléter, parce que Michel, vous allez continuer votre chronique. Je sais que vous aussi,
je vais aussi rebondir.
Mais bien sûr, mais je vous posais la question, justement, parce qu'après, il y aura la suite de la chronique. Voilà, mais allez-y, bien sûr.
Oui.
Émotion avec Michel. Alors, aussi. Déjà, vous avez pleuré, Michel?
Non. Oh. Mais comme je disais à Corinne, c'est un effet qui peut être assez courant, parce que moi, c'était ma deuxième éclipse totale. J'en avais vu une en 2006 en Turquie. Et ce qui s'est passé en Turquie avec le groupe auquel je m'étais intégré, c'était des Suisses. Hein, parce qu'avec Daniel, on s'était pris un peu tard pour réserver. On a trouvé un groupe de Suisses qui partait en Turquie voir l'éclipse.
Qui parlait quelle langue? Parce qu'en Suisse,
Français. Bon, c'était des Suisses francophones. Parce qu'à l'époque, il faut dire, j'étais en Franche-Comté. Hein, j'étais pas loin de la Suisse. Et j'avais un collègue, puisque c'était l'époque où je me formais pour l'animation des Planétariums. On était un groupe de 12 et tout le monde était plus ou moins allé voir l'éclipse à différents endroits. Et un des collègues était parti en Libye, parce qu'à l'époque c'était Kadhafi, il avait organisé tout un camp en plein désert pour accueillir les astronomes, était parti avec un groupe de vidéastes qui voulaient savoir ce que c'était que ces gugus qui partaient faire des milliers de kilomètres pour voir un truc qui durait 3 minutes. Et du coup, j'avais vu le reportage et c'était exactement pareil que ce que j'avais vécu en Turquie. C'est-à-dire qu'en fait, comme le disait Corinne, c'est facile à calculer, la Lune met à peu près une heure à pénétrer progressivement sur le Soleil. Donc c'est quand même assez long, hein, cette phase préparatoire, si je peux dire, de la totalité. La tension monte, puisqu'on ne veut pas rater ses photos, etc. On voit que petit à petit, le Soleil est mangé. Et la totalité, c'est le grand spectacle, c'est extraordinaire. Hein. Pour quelqu'un qui n'a jamais vu une éclipse totale, ça n'a rien à voir avec une éclipse partielle. Le spectacle est magnifique. La Lune couvre exactement le Soleil et on voit toute la couronne autour du Soleil. Et le ciel est crépusculaire. Comme disait Corinne, on peut voir des planètes ou des étoiles brillantes, même dans certains cas. Donc, il y a le summum qui est la totalité. Et juste après, comme ça a été tellement tendu, je pense qu'il y a une espèce de déprime, une espèce de compensation nerveuse. Et effectivement, il y a pas mal de gens qui sont tristes, qui pleurent et autres parce que l'éclipse s'est passée, quoi. Alors, Corinne avait fait sans doute un bon choix du point de vue du site, parce que depuis, j'ai vu des photos sur des sites d'astronomie française, là, AstroSurf en particulier, puisque en revenant d'Espagne, tout le monde montre un peu ses photos. Et il y a pas mal de gens qui étaient dans la région de Soria aussi, comme vous. Et d'ailleurs, l'AFA, l'Association française d'astronomie, qui avait organisé un voyage, était aussi dans la région de Soria. Donc c'était un bon choix. C'était surtout un choix météorologique, parce que le centre de l'Espagne est beaucoup plus sec. Et moi, j'avais fait le choix complètement inverse, d'aller sur la côte, sachant que j'aurais pas le même problème que Corinne, c'est-à-dire qu'ayant un horizon complètement dégagé sur l'océan Atlantique, je savais que je voyais l'éclipse jusqu'au bout, jusqu'au moment où la Lune serait complètement retirée du Soleil. Par contre, du point de vue météorologique, c'était beaucoup plus risqué, puisqu'il y avait une chance sur deux d'avoir des nuages. Je dois dire que j'ai été très surpris de la région nord de l'Espagne, que je ne connaissais pas. Je n'avais jamais été plus loin que le Pays Basque, Bilbao. Et en fait, les Asturies et la Galice, nous, on était à la limite pratiquement des deux. C'est une région très verte, parce que très humide. Pour, je dirais presque pour caricaturer, on se croirait presque en Suisse, tellement c'est vert, il y a des vaches partout. Et il y a un problème, c'est que c'est tellement humide que c'est couvert tout le temps. Enfin, pas tout le temps, mais nous, on était, c'était couvert tous les matins. Ça se levait progressivement pendant la matinée, et après, on avait un beau ciel. Sauf que le jour de l'éclipse, c'était très couvert le matin, et la météo annonçait que ça allait pas se découvrir. Et c'était la cata, quoi. Ça allait même s'aggraver vers la soirée, au moment de l'éclipse, vers 7h30, 8h. Donc j'ai eu la chance, parce qu'un membre du club, du petit club que j'ai fondé en Gironde, Ludovic, était lui un peu plus loin vers l'ouest, puisqu'il a de la famille là-bas, sa femme est d'origine espagnole, du côté de la Corogne, pour ceux qui connaissent, c'est Ferrol. Et lui me disait, ben, je lui ai téléphoné, non, c'est comme d'habitude, le ciel est en train de se dégager, ça va être bon pour la journée. Donc on a fait 130 km, 1h30 de route pour aller à Ferrol, et c'était le bon choix, parce que le lendemain, j'ai demandé à notre logeur comment ça s'était passé là où on avait notre maison, et c'était resté couvert toute la journée. Donc j'ai eu un peu le même spectacle que Corinne, je ne vais pas revenir dessus. C'était au-dessus d'une plage, sur une dune au-dessus d'une plage. Les gens ont applaudi pendant l'éclipse totale. Je comprends pas bien pourquoi, parce que le soleil, je pense qu'il est pas vraiment concerné par les applaudissements. Moi, j'ai été très déçu, si je donnais un autre témoignage, par le peu de monde qu'il y avait. Parce que je m'attendais à ce qu'il y ait un monde fou sur les dunes, comme ça, au-dessus des plages pour observer l'éclipse. Ludovic m'avait prévenu qu'il fallait pas que j'arrive trop tard parce que des routes allaient être coupées. À midi, des routes, par exemple, une route qui allait vers un cap en cul-de-sac allait être coupée à midi. À 14 heures, ils devaient mettre en place et les autorités, tout un plan de circulation en sens unique pour éviter les bouchons, etc. Et en fait, il n'y avait pas tant de voitures que ça, même très peu par rapport à ce que j'attendais. Il y avait très peu de monde pour observer l'éclipse, c'était un peu décevant. Il y avait peut-être plus de monde du côté de Soria, je ne sais pas. Nous, on a fait une observation particulière, juste pour un petit témoignage, ça s'appelle les ombres volantes. C'est juste avant la totalité, quand le soleil est très 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 fin. Je ne vais pas expliquer le phénomène optique, mais la lumière du soleil passant dans l'atmosphère avec la turbulence fait qu'au sol, ça fait comme des vagues sombres qui circulent à toute vitesse. Et par chance, comme j'en avais parlé au groupe avec lequel, le petit groupe hein, avec lequel j'étais là-bas, comme j'en avais parlé avant, Daniel a pu les filmer avec son caméscope assez brièvement, mais on voit les ombres volantes, ce qui est aussi un phénomène un peu bizarre qui se passe pendant une éclipse de soleil. Voilà. En France, moi, mon petit club, malgré mon absence, on s'était organisé pour accueillir le public. Ça a été très difficile. Hein. Je remercie encore la petite équipe de quatre là, qui s'était dévouée pour ça. Parce que comme pour les Nuits des Étoiles, on s'attendait à avoir 100 ou 150 personnes. On avait 75 paires de lunettes, 4 télescopes. Et en fait, c'était probablement dans les 500 personnes ou plus qui sont arrivées, qui étaient sur le site beaucoup trop tôt avant qu'ils aient eu le temps de tout installer, qui sont rués sur eux pour avoir des lunettes. Et ils ont été franchement un peu débordés. Je crois qu'ils ont eu une soirée un peu difficile. Ce qui n'était pas le cas de Serge, hein, de Vega de la Lyre, parce que je l'avais invité à venir aussi. Il n'a pas pu venir, mais il m'a envoyé un petit mail. Ils ont fait à Vert donc l'observation avec le public la soirée et il m'a expliqué que ça s'était bien passé avec tous leurs télescopes, les lunettes, etc. Et ils ont prolongé avec la soirée d'observation du ciel une fois le soleil couché, un peu comme ils le font tous les samedis à leur observatoire. Je pense que, pour revenir sur ce qui s'est passé en Dordogne, là, dans mon petit village, on a été victime de deux phénomènes, c'est-à-dire qu'il y a très peu de clubs astro qui avaient organisé des observations publiques, parce que comme AG33, pas mal était parti du côté de l'Espagne, et en particulier le plus gros site, enfin le plus gros club astro de Dordogne qui se trouve près de Périgueux. Et l'autre phénomène, c'est la pénurie de lunettes, parce qu'en fait, les gens, sachant qu'il y avait des lunettes disponibles sur les sites, sont venus sur les sites parce qu'ils n'avaient pas pu s'en procurer. Depuis mon retour, j'ai téléphoné à l'opticien là, de mon village, de la petite ville à côté. Lui, il n'en avait plus 15 jours avant. Et il m'a dit que la pharmacie, une des deux pharmacies de Mussidan, en avait commandé en urgence le mardi, hein, juste la veille de l'éclipse. Ils les ont reçus à 17h. Ils avaient 500 paires. À 19h, il n'y en avait plus. Donc les gens se sont vraiment rués sur les lunettes et j'espère que ça se passera mieux l'année prochaine parce que, comme on va le voir maintenant, ça va recommencer l'année prochaine.
Très bien. Si vous voulez reprendre le cours, bien sûr, de la chronique, après, je sais que vous aurez tellement de choses à raconter sur ces beaux moments que vous avez vécu.
Alors, là, pour ce qui concerne...
On va reprendre le cours de votre chronique, Michel.
Les prochaines éclipses, il faut commencer par celle de demain matin, vendredi 28 août. Une éclipse partielle de lune, presque totale, avec un obscurcissement de 93%. En général, une éclipse de lune précède ou suit une éclipse de soleil avec 2 semaines d'écart. L'explication en est simple, une éclipse de soleil a toujours lieu à la nouvelle lune, alors qu'une éclipse de lune est à la pleine lune, et ces deux phases opposées sont séparées par la moitié du cycle lunaire, appelé lunaison, qui dure 29 jours et demi, donc environ 15 jours séparent les deux phénomènes. Tout le monde sait bien qu'il n'y a pas d'éclipse chaque mois, à chaque cycle lunaire. La raison est l'inclinaison d'environ 5 degrés de l'orbite de la lune par rapport à l'orbite de la Terre, donc au trajet apparent du soleil dans le ciel, appelé écliptique, puisque c'est justement le long de ce grand cercle sur la voûte céleste que se produisent les éclipses. À cause de cette inclinaison, la nouvelle lune passe soit au-dessus, soit en dessous du soleil dans le ciel, et de la même manière, la pleine lune rate l'ombre de la Terre. Pour que l'alignement des trois astres puisse produire une éclipse, il faut, pour l'éclipse solaire, que la nouvelle lune ait lieu proche de l'intersection de l'orbite de la lune avec l'écliptique, ce qu'on appelle les nœuds en astronomie, et ça ne se produit en général que 2 fois par an, car l'orbite lunaire coupe l'écliptique en 2 nœuds, d'où la moyenne de 2 éclipses solaires par an à environ 6 mois d'intervalle. Cette année, il y a eu une première éclipse solaire le 17 février, mais elle n'était visible qu'en Antarctique. Et comme la position de la Lune par rapport aux nœuds ne change pas beaucoup en 15 jours, il y a souvent une éclipse lunaire lors de la pleine Lune qui précède ou qui suit l'éclipse solaire, comme ce vendredi 28 août. Les éclipses totales de Lune sont beaucoup plus familières car contrairement aux éclipses totales de Soleil où il faut se situer exactement sur la bande que va parcourir l'ombre à la surface de la Terre, au Groenland ou en Espagne le 12 août, l'éclipse lunaire est visible pour une très grande partie de la Terre, en gros là où il fait nuit pendant le phénomène. Malheureusement, l'observation de celle de vendredi ne sera pas facile, sans parler des conditions météo qui ne sont pas annoncées très bonnes. En effet, elle se déroule très tard en fin de nuit, la Lune commençant à pénétrer dans l'ombre de la Terre vers 4h30 et le maximum étant vers 6h15, une heure avant son coucher. De plus, l'aube débutant vers 6h10, le maximum se produira dans un ciel commençant à s'éclaircir et la sortie de la Lune se déroulera dans un ciel bleuissant de plus en plus, gênant son observation, jusqu'au lever du Soleil, presque en même temps que le coucher de Lune, comme c'est toujours le cas à la pleine Lune, puisque les deux astres ont des positions opposées dans le ciel. Il faut dire que la Lune est beaucoup moins brillante pendant une éclipse et se colore en rouge, car les rayons du Soleil déviés, on dit réfractés en optique, par l'atmosphère terrestre colorent en rouge, comme le Soleil couchant, le bord de l'ombre de la Terre, là où passe la Lune pendant une éclipse. Sans égaler l'impressionnant spectacle d'une éclipse totale de Soleil, comme vient d'en témoigner Corinne, une éclipse totale ou presque de lune est aussi un phénomène assez spectaculaire, qui nous fait passer d'une pleine lune éblouissante, dont l'éclat masque la plupart des étoiles dans le ciel, à une lune rouge beaucoup moins brillante, où les étoiles réapparaissent presque comme dans un ciel sans lune. Et l'inverse, quand on a la chance de voir tout le phénomène de bout en bout, ce qui ne sera pas le cas demain, comme je viens de l'expliquer. Donc ça vaudra le coup de se lever très tôt demain matin, du moins s'il n'y a pas trop de nuages.
Alors, en ce qui concerne les prochaines éclipses de soleil, quelques mots, et Corinne, je suis le prompteur, vous pouvez intervenir aussi. Michel.
Comme je l'ai dit, il y a généralement 2 éclipses solaires par an, pas souvent visibles depuis la France, donc je ne vais pas toutes les récapituler. Seulement les totales en France et en Europe ou pas trop loin. Je n'irai pas non plus jusqu'à la prochaine totale en France, le 3 septembre 2081, car seuls nos plus jeunes auditeurs auront la possibilité de la voir. J'ai calculé que mes petits-enfants auront entre 65 et 67 ans et j'espère qu'ils iront se placer sur la bande de totalité entre la Bretagne et l'Alsace en passant par Paris pour admirer ce spectacle extraordinaire qui durera environ 3 minutes en région parisienne. Et peut-être se souviendront-ils de ce grand-père qui les avait emmenés en Espagne en voir une 50 ans plus tôt. Après une série d'éclipses visibles surtout du côté de l'Amérique, c'est le tour de l'Europe d'en enchaîner plusieurs puisque dès l'an prochain, il y aura de nouveau une éclipse totale visible en Espagne, le 2 août, mais dans l'extrême sud, du rocher de Gibraltar, où les places seront chères, à Malaga. et bien entendu au Maroc, de l'autre côté du détroit de Gibraltar, à Tanger, pour des durées de 4 minutes et demie environ, seulement 2 minutes à Malaga, un peu comme celle du 12 août. La bande de totalité parcourt ensuite l'Afrique du Nord, Algérie, Tunisie, Libye, puis Égypte et une partie de la péninsule arabique avant de se perdre dans l'océan Indien. Elle se caractérise par une durée record de 6 minutes et demie en Égypte, à Louxor, qui est pile sur la ligne centrale. C'est une durée exceptionnelle qui en fait l'éclipse du siècle, ou je dirais plutôt une des éclipses du siècle, car il y a déjà eu une durée analogue en 2009 du côté de l'Inde et de la Chine. Malheureusement, l'Égypte n'est sans doute pas la destination idéale pour l'observer, en raison des chaleurs extrêmes en été du côté de Louxor, du transport en avion limitant le matériel qu'on peut emporter, de la circulation très difficile, sauf avec un chauffeur local, et pour finir, les tarifs d'hébergement qui se sont envolés, par exemple de 200 euros à 2700 euros la nuit pour les jours de l'éclipse. Pour ma part, j'envisage plutôt la Tunisie, accessible en ferry depuis Marseille, avec une durée légèrement plus courte, par exemple 5 minutes 45 du côté de Sfax, mais des températures plus supportables sur la côte méditerranéenne. En France, dans notre région, elle sera partielle, avec un soleil masqué à environ 73%. Donc petit message, ceux qui ont des lunettes à éclipse, surtout gardez-les pour l'an prochain. Et la série continue encore avec une éclipse l'année suivante, le 26 janvier 2028, et encore en Espagne, mais qui ne sera pas totale, mais annulaire. C'est-à-dire que la Terre, la Lune et le Soleil seront pile alignés comme pour une éclipse totale, sauf que c'est avec la Lune très éloignée de la Terre sur son orbite elliptique, ne pouvant pas masquer complètement le Soleil, dont un anneau de lumière reste visible, d'où le nom d'annulaire. La bande d'annularité, si je peux dire, traversera l'Espagne en biais du sud-ouest, vers Cadix et Séville, ou Faro au Portugal, jusqu'au nord-est, Valence, Barcelone et Palma de Majorque étant à son extrémité. Et sa durée sera d'environ 7 minutes de Séville à Valence, 6 minutes à Barcelone et 5 minutes à Palma. En France, elle sera partielle à 82% dans notre région, donc encore une éclipse importante. On trouve toutes les informations utiles pour les éclipses solaires comme lunaires avec les cartes interactives de la section Calcul d'éphémérides du site de l'IMCCE. C'est l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides, un service de l'Observatoire de Paris qui est une référence mondiale pour la précision de ces calculs de mécanique céleste. Pour trouver les éclipses des années suivantes qui peuvent nous concerner, il y a un site dédié aux éclipses par la NASA, eclipse.gsfc.nasa.gov, sur lequel on trouve un outil bien utile avec des planisphères indiquant le trajet des éclipses totales et annulaires par période de 20 ans. Si on examine celle de 2021 à 2040, on voit que nous ne sommes plus trop gâtés, car il y aura beaucoup d'éclipses annulaires et peu d'éclipses en Europe, et pas trop loin. Après celle de 2027 et 2028 dont nous venons de parler, il y aura une éclipse annulaire le 1er juin 2030, qui passera sur la Grèce et l'est de la Turquie, elle sera partielle à 67% à Bordeaux, et une autre le 21 juin 2039, qui se terminera en Europe du Nord, Norvège, Suède, Finlande, Lituanie, partielle à 61% à Bordeaux. Plus loin de nous, une éclipse totale traversera le sud de l'Afrique le 25 novembre 2030, et une autre, l'Afrique centrale et le Proche-Orient, le 20 mars 2034, très partielle en France, à seulement 9%. Comme on le voit, malgré une moyenne d'environ 2 éclipses par an, pas toujours totale, les éclipses totales ou annulaires ne sont pas fréquentes sur un continent. Si on ajoute les éclipses partielles, listées sur des tableaux du même site de la NASA, on aura aussi le 21 août 2036, 58% à Bordeaux, le 5 janvier 2038, à 21%, et le 2 juillet, à 34%, pour cette année, qui nous fera un doublé. Et la décade 2030-40 se terminera pour nous avec celle du 21 juin 2039 dont j'ai parlé, annulaire en Europe du Nord. Cette récapitulation nous donne donc 7 éclipses partielles visibles en France, soit environ tous les 2 ans, même si ce n'est pas réparti aussi régulièrement. En guise de conclusion, les éclipses totales et annulaires sont très rares sur le continent européen. 27 ans entre la totale de 99 en France et le doublé espagnol 2026-2027, puis 54 ans avant celle de 2081. Il ne faut donc pas hésiter à se déplacer de quelques centaines de kilomètres pour pouvoir admirer ces spectacles extraordinaires si on en a la possibilité.
Allez, vous êtes toujours à l'écho des programmes d'Odo Radio. C'est notre journal en ce jeudi 27 août. Michel Favré, 137e chronique astro. Et là, Michel, vous allez aborder la troisième partie de votre chronique avec le ciel du mois.
Alors, comme chaque mois, je renvoie nos auditeurs vers la rubrique ciel du mois de la section astronomie de notre site web, www.constellationsetgalaxies.org, pour voir les cartes du ciel correspondantes et avoir plus de détails. Je la mettrai à jour pour septembre d'ici la fin de la semaine. Comme les jours ont raccourci depuis le solstice d'été du 21 juin et l'approche de l'équinoxe d'automne dans moins d'un mois, l'observation du ciel nocturne peut commencer plus tôt avec un soleil qui se couche en ce moment vers 20h45 et la nuit qui arrive vers 22h, 22h30 si on attend un ciel bien noir. Fin septembre, ce sera une heure plus tôt avec le coucher vers 19h45 et la nuit vers 20h45. Comme je viens de l'évoquer, l'équinoxe d'automne du 23 septembre, à 2h05 pour être précis, est l'un des deux jours de l'année, avec l'équinoxe de printemps, où partout sur Terre, le soleil passe exactement 12 heures dans le ciel. Le terme équinoxe signifie « nuit égale hein, » équinoxe en latin, bien qu'en réalité, si on prend en compte l'aube et le crépuscule, la nuit est plus courte que 12 heures, environ 10 heures en France. De plus, lors des équinoxes, le soleil se lève exactement à l'est et se couche exactement à l'ouest, alors qu'il est toujours décalé le reste de l'année, vers le sud en automne et hiver, le nord au printemps et en été. En cette fin août, comme nous sommes en été depuis environ deux mois, au début de nuit, ce sont les constellations typiques de cette saison qui occupent la plus grande partie du ciel, même si quelques-unes du ciel de printemps sont encore visibles vers l'ouest avant de se coucher, comme le Bouvier et son étoile principale très brillante, Arcturus, la deuxième plus brillante du ciel boréal, qu'on trouve en prolongeant l'arc de la queue de la Casserole, la partie la plus brillante de la Grande Ourse. Et il y a aussi la couronne boréale et Hercule. Vers le sud-est, on ne peut pas manquer les trois étoiles brillantes visibles dès le crépuscule qui forment le triangle de l'été. Vega, la plus haute, presque au zénith, c'est-à-dire au-dessus de notre tête. Deneb, la plus à l'est, et Altaïr, la plus basse, permettant de situer leurs constellations respectives de la Lyre, du Cygne et de l'Aigle. Quand le ciel sera assez noir, on pourra distinguer le long du Cygne et de l'Aigle le ruban laiteux de la Voie lactée, incliné à peu près à 45 degrés, et qui nous conduit vers le sud à deux autres constellations bien reconnaissables, du Sagittaire, ressemblant à une théière, et du Scorpion, dont la tête dessine une sorte d'éventail, avec un arc de quatre étoiles devant son étoile la plus brillante, Antarès, c'est-à-dire l'autre Mars, en raison de sa couleur orangée qui rappelle la planète. À l'est, ce sont les premières constellations de l'automne, notamment Pégase, bien reconnaissable à son grand carré, et dans le prolongement, Andromède, dans laquelle on peut distinguer l'objet le plus lointain visible à l'œil nu, à 2,5 millions d'années-lumière de nous, la grande galaxie M31, qui apparaît déjà comme une petite tache floue ovale dans une simple paire de jumelles, alors qu'en réalité, elle est énorme, car si on pouvait l'apercevoir comme elle apparaît sur les photos, elle serait longue comme 6 fois la pleine lune. À la fin du mois de septembre, avec la nuit qui survient plus tôt, la situation sera analogue en début de nuit, sauf que le triangle de l'été sera plus haut dans le ciel et presque au sud, la Voie lactée plus redressée à environ 60 degrés et les constellations plus hautes à l'est, avec les poissons et le bélier levés, et plus tard la baleine vers 22h30, avec une petite comète près de sa tête, 220P Macno, qui a connu un sursaut d'activité ces dernières semaines et doit être visible dans une paire de jumelles. Elle sera encore plus intéressante vers la mi-octobre, car elle se sera rapprochée de la Terre, donc devrait être plus lumineuse et plus grande. Côté planète, nous ne sommes pas gâtés le soir en ce moment, car nous n'avons que Vénus brièvement dans le ciel du crépuscule, plutôt basse, car elle se couche vers 22h30. Elle nous reviendra dans le ciel du matin vers la mi-novembre. Peu après le coucher de Vénus, Saturne se lève à l'est, mais il faut le laisser monter un peu au moins une heure, voire deux, pour l'observer dans de meilleures conditions. On ne peut admirer ces anneaux que dans un télescope, car ils ne sont pas visibles dans une simple paire de jumelles. Fin septembre, Saturne se lèvera vers 20h30. Mars se lève beaucoup plus tard, dans la nuit, vers 3h en ce moment, 2h30 fin septembre, et il n'est pas très intéressant, car encore loin de nous, donc très petit et peu lumineux, pas plus que les étoiles brillantes qui dessinent les constellations. Jupiter, lui, n'apparaît que vers 6h, donc dans les lueurs du crépuscule, des conditions mauvaises pour son observation. Fin septembre, ce sera un peu mieux, avec un lever vers 4h30, donc observable assez haut vers 6h, environ une heure avant le début de l'aube. Comme chaque mois, la Lune s'invitera près de ses planètes en produisant des conjonctions, à commencer par le matin du dimanche 6, après 3h, où un gros croissant de lune dominera Mars à son lever, le tableau étant complété par la brillante Jupiter peu après le début de l'aube. Si on a pu faire cette observation les jours précédents ou suivants, on pourra constater le déplacement quotidien assez rapide de la Lune par rapport aux planètes et aux étoiles, environ la largeur d'une main bras tendu. D'ailleurs, le lendemain, le mardi 8, puis le mercredi 9, le croissant devenu plus fin se sera rapproché de Jupiter, alternativement au-dessus le mardi et en dessous le mercredi, au moment du lever de la planète, vers 5h30. Le lundi 14, le croissant se couchera à côté de Vénus, mais ce ne sera visible que brièvement dans les lueurs du crépuscule, les deux astres se couchant 1h30 après le Soleil. Et ce mois de septembre riche en conjonctions se terminera avec celle du dimanche 27, qui verra en début de nuit, vers 21h, la pleine lune se lever presque en même temps que Saturne. Mais nous n'en avons pas terminé avec les conjonctions de septembre, car il y en a encore une, mais qui ne concerne pas la Lune. Le lundi 14, c'est même d'une occultation dont il s'agit, car la Lune passera devant Vénus en la masquant. Malheureusement, en France, nous ne pourrons pas voir le début du phénomène, qui commence vers 11h30, alors que le croissant de Lune ne se lève qu'un peu avant midi. Nous ne pourrons donc voir que l'émergence de Vénus vers midi et demi, mais dans des conditions difficiles, car en plein jour et pas très loin du Soleil. S'il n'y a pas de nuages, je pense qu'on pourrait le voir dans une paire de jumelles, tant Vénus est brillante. Mais le plus difficile sera de repérer le fin croissant de lune, pas très lumineux en plein jour, en faisant très attention de ne jamais braquer les jumelles en direction du Soleil. Je pense que les clubs d'astronomie comme AG33 proposeront au public de venir voir ça dans leur télescope avec des astronomes expérimentés pour les pointer en toute sécurité, du moins si la météo est bonne. Et pour finir avec ce calendrier astronomique, notre prochaine chronique est prévue le mercredi 30 septembre et nous aurons le plaisir d'y accueillir de nouveau Corinne et sans doute Serge de Vega de la Lyre et un représentant de la SAB pour parler des animations prévues pour le jour de la nuit 2026 dont la date officielle est le samedi 10 octobre.
Allez, merci beaucoup Michel. Corinne, je ne sais pas si vous voulez apporter. Là, on est sur le timing, on est juste, mais voilà, Corinne n'est pas pour rien, si vous voulez compléter ou informer.
Très rapide, donc le 14, non, on n'organisera pas quoi que ce soit, parce que je suis encore dans l'Aveyron, hein, en vacances. Donc, non, je ne pense pas que quoi que ce soit organisé. En plus, un lundi, tout le monde travaille, c'est compliqué. Par contre, moi, je vais en profiter, oui. Alors, pour notre calendrier, sachez que je viens de vérifier les prévisions météo. Ça s'arrange pour cette nuit. Donc, il y a de grandes chances qu'on maintienne la sortie spéciale éclipse de lune au mémorial de la ferme de Richemont à Socat. N'hésitez pas à nous y rejoindre. Ensuite,
4h30,
oui, bien sûr. À 4h30, il faut se lever. Après, c'est pas grave, hein, si vous dormez pas beaucoup, vous reprenez le travail dès le matin, c'est pas un problème. On l'a déjà fait. Sinon... Le 6 septembre, même si je ne suis pas là, hein, il y a mes camarades qui restent sur Socat pour offrir le forum des associations. Il y aura à Socat, hein, près de la ruche, il y aura une animation solaire en continu toute la matinée, hein, de 9h à 13h, donc à la ruche de Socat. Et puis ensuite, prochain rendez-vous, le 18 septembre au mémorial pour une spéciale lune. Et on sera à Arterre, à Le Tourne, le 19 septembre, pour une soirée astro avec conférences, observations, etc.
Parfait, merci Corinne. Non, mais j'écoutais avec attention. Là, on est contraint d'arrêter parce qu'on est en train de dépasser le temps. Michel, merci. On se retrouve le 30 septembre. Corinne, certainement.
Ah oui, le 30 septembre, je serai là, il n'y a pas de souci.
Voilà. Allez, merci à tous les deux. Allez, on va dépasser le temps. Voilà, initialement imparti, mais juste le temps d'annoncer une ou deux infos. Voilà, on se jeudi 27 août. Vous aurez à Bassens. Voilà, on en a reparlé d'ailleurs dans le cas de toutes les interviews et des bons moments qu'on a passé hier autour de l'espace, Michel Serres. Là, vous avez toute une animation autour de la halle bassonnaise en ce jeudi à partir de 17h avec food truck, sucré salé, mais on ne va pas tout préciser, buvette, musique, jeux pour les enfants, etc. C'est en accès libre. Toujours en ce jeudi, dans le cadre de l'été métropolitain, cette fois bien à Floirac, vous avez rendez-vous avec un spectacle spectacle autour de la transe chorégraphique hypnoptique. Voilà, le spectacle se nomme DIRAU. J'espère avoir bien prononcé. D-I-R-A-U. C'est à partir de 19h. Et pour le lieu exact, c'est l'esplanade des Libertés. Voilà, c'est derrière la maison du savoir partagé, la M270. Voilà, ce soir, bien sûr, grand concert solidaire à l'Arkea Arena. Et ma dernière info sera pour le 29 août, concert également animation solidaire avec le Porge. Avec tout d'abord, ce sera Ison, ce rendez-vous de samedi 29 août, avec tout d'abord à 18h un marché gourmand et à 21h voilà, un concert avec les musiciens de Jean-Jacques Goldman pour un bel hommage. Et tous les bénéfices réalisés iront pour les sinistrés de la ville du Porge. Il y aura également le 30 août cet événement à Lacano avec le groupe de Philippe Etchebest et d'autres artistes locaux. C'est en accès libre et gratuit, donc vous pouvez contribuer voilà, à prix libre, puis certainement sur site. Voilà, ce dimanche 30 août en front de mer à Lacano, possibilité de vous restaurer, etc. Allez, on va se quitter en musique avec Savi. Donc c'est un des extraits, un extrait de sa prestation de mardi. Là, également, il y avait de la belle émotion. Savi tout seul avec sa guitare, sa belle voix, son chant. Et là, on va écouter un titre qu'il nous a interprété ce mardi, en rappelant qu'il sera sur le plateau artistique de la 4e édition pour l'année 2026 du Picnic Zik. Donc rendez-vous Quai des Sports à Saint-Michel à Bordeaux entre 17h et 20h. On salue à nouveau toute l'équipe des petits gratteurs. Voilà, c'est gratuit, ouvert à toutes et tous. Savi à partir de 17h pour la chanson française, si on devait repréciser. 18h Moonless, c'est du rock. Et 19h Awadi Sound System, Reggae Roots. Allez, on se quitte avec Savi. Le temps de remercier à nouveau Michel et Corinne. Et bien sûr, Nicolas, la régie technique et présentation des brèves. Allez, Savi tout de suite sur Eau de Radio.
Raconte-lui une histoire qu'elle ne connaît pas, pas celles qui lui font peur le soir. Dis-lui qu'elle est belle et unique au monde, qu'elle se souvienne quand elle tombe, que tu seras toujours là. Fais-lui oublier les peines de la vie, car si elle a tout compris, elle ne les mérite pas. Qu'elle se réchauffe à tout moment, quand dans sa chambre à cet instant, ses yeux ne se ferment pas. Que tu traverses tout ça avec moi. Je veux que tu me prennes dans tes bras. Raconte-lui une histoire qu'il ne connaît pas, pas celles qui lui font peur le soir. Dis-lui qu'il est beau et unique au monde, qu'il se souvienne quand tu seras grand, que tu seras toujours là. Fais-lui oublier les peines de la vie, car s'il a tout compris, il ne les mérite pas. Qu'il se réchauffe à tout moment, quand dans sa chambre à cet instant, ses yeux ne se ferment pas. Je veux que tu traverses tout ça avec moi. Je veux que tu me prennes dans tes bras. Papa.